Et nous allons faire maintenant la connaissance de Sandra. Bonsoir Sandra.
Oui, allô, bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue.
Bah écoutez, je vous remercie vraiment. Je suis très touchée que mon appel ait été pris et je vous écoute avec beaucoup d'attention depuis des années et la libre antenne, je la porte vraiment dans mon cœur.
Ah, c'est gentil. Alors je vous écoute Sandra. Qu'est-ce qui vous amène?
Voilà, je vous ai appelé parce que je me suis sentie appelée par l'appel que vous avez fait ce soir sur le sujet du deuil.
Oui.
C'est un sujet qui m'est cher, et notamment au travers de la perte des gens qu'on aime, quoi. Et excusez-moi, si j'ai la voix qui tremble, c'est un petit peu idiot, vous l'entendez souvent à l'antenne, mais du coup, c'est...
Mais je comprends,
c'est bizarre de traverser, en fait, d'être à l'écoute et à un moment de recevoir et de restituer au monde quand, voilà.
Mais vous allez vous rendre compte que vous allez vite oublier tout ça, finalement. On discute et on finit par oublier simplement qu'on est à la radio. Et on est juste dans l'échange, parce que c'est ça qui compte. C'est pas la forme, c'est le fond.
Oui, c'est ça. On est d'accord. Donc, en fait, pour introduire le sujet, je dirais que moi, depuis que je suis petite, j'ai peur de la mort. D'aussi loin que je me souvienne, j'avais vraiment une terreur de ça.
Oui.
Et c'était vraiment une gageure de grandir et d'évoluer dans ce monde en ayant cette peur vraiment presque ancrée malgré moi.
Quoi. Mais est-ce qu'il y a eu dans votre famille des décès précoces ?
Ouais, alors j'y viens du coup, et c'était la date très particulière en plus, c'est quand même fou parce que, en fait, cette année, ça fait 30 ans que mon père est décédé, et en fait, il est mort en 91, et j'étais aux abords de mes 14 ans. Et en fait, la petite histoire, parce que je suis très chiffre, hein, moi, alors vraiment, du coup, ma mémoire, en fait, imprime beaucoup les dates et ça m'aide à me... Voilà, j'arrive à situer les choses dans le temps. Ouais, mais des fois, les repères, vaut mieux les perdre un petit peu parce que sinon, on s'attache beaucoup. Même. C'est comme ça, on est ce qu'on est.
Mmh.
Et en fait, du coup, j'ai toujours eu peur de... Mon père et moi, on se ressemblait beaucoup. Et il est mort à 39 ans et demi, jour pour jour. Et moi, du coup, j'ai nourri cette croyance,
cette peur
de mourir au même âge que lui.
Donc il y a une année pendant laquelle vous n'avez pas vécu, quoi.
Ah non, ça a plané. Ah oui, alors cette année-là, c'était absolument fou, parce qu'en plus, du coup, sa mère, ma grand-mère, que j'adorais, qui était vraiment, je dirais, ma reine, quoi. C'était un petit peu, voilà, on avait une relation très proche.
C'est joli, ça,
Ouais, vraiment, c'était ma grand-mère, mais c'était mon amie en plus.
Ah, voilà. C'est beau ça.
Ouais. Et du coup, je sais qu'elle m'a préparée parce qu'elle me savait sensible, et ma sensibilité, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui me sert dans mon travail artistique, mais en termes d'être humain, l'hypersensibilité, des fois, c'est pas facile. Alors,
ça peut être un peu difficile, oui.
Bah je dis toujours, je l'ai entendu aussi, hein, mais parce que c'est cadeau fardeau, quoi. C'est-à-dire cadeau quand on est dans l'alignement, quand on voit par exemple un ray de lumière et que ça fait des papillons dans le cœur et qu'on a l'impression que les planètes sont en alignement et tout. Et après, quand il y a des choses qu'on redoute, comme par exemple le départ des proches. Bah, du coup, ça devient un fardeau parce que j'ai eu l'impression de devoir survivre à quelque chose qui me ferait mourir, quoi. Vraiment, sincèrement, je voyais ça comme une issue fatale, en fait, de perdre mes proches, quoi.
Et que quand
je me rappelle que...
Pardon, juste pour comprendre, quand vous dites que votre grand-mère vous a préparé, qu'est-ce qu'elle a fait de particulier pour vous préparer?
Bah, par exemple, je regarde là mon meuble dans lequel j'ai mon matériel physique artistique, parce que j'ai le matériel, il y a le numérique, hein. J'ai mon ordinateur en face de moi dans lequel j'ai mon projet avec tous mes petits dossiers glanés patiemment depuis son décès. Et derrière moi, j'ai le meuble qu'elle m'a offert, je m'en rappelle très bien. C'était, je ne sais plus si c'était un petit peu avant ou un peu après Ça devait être aux alentours ça devait être légèrement après le décès de mon père, en fait, que j'ai fait mes études d'art appliqué. J'ai intégré les arts appliqués à partir du lycée, après qu'il soit décédé, en fait.
Ouais.
Et je me rappelle qu'on va dans le centre commercial près de chez nous, on va acheter ce meuble pour mettre justement ce matériel. Et elle me dit, profites-en tant qu'on est vivant, après quand on sera mort, ce sera plus difficile. Et c'était affreux parce qu'à l'époque, je me rappelle à chaque fois qu'elle me disait des phrases comme ça, mais je pleurais en fait. Je pleurais et ça me déchirait. Et elle me disait, mais tu t'y feras quoi. Mais c'est comme du coup si elle m'avait donné l'antidote toute la vie à me le dire, en essayant de me faire intégrer cette finitude
que vous n'arriviez pas à accepter.
J'ai toujours protesté contre la finitude, en fait. Donc, j'ai toujours eu des idées autour de l'infini et tout. Je lui disais toujours, ma petite phrase, c'était « Mamie chérie, que j'aime de tout mon cœur jusqu'au ciel et jusqu'à l'infini. » Du coup, l'idée, c'était toujours de dire que ce serait voilà, pour toujours. Ça finira jamais, quoi. Comme pour conjurer le sortant, en fait.
Et donc, quand vous avez passé 39-40 ans, comment ça s'est passé dans votre
terrible,
esprit?
Du coup, je vais vous dire le truc. Alors là, moi, en plus, qui suis fan des chiffres, c'est là où elle n'a pas loupé son coup. C'est qu'elle déclinait. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, une personne, voilà, elle est décédée à 92 ans et quelques.
Ah oui?
Ouais. Et en fait, le truc... bon, papy avait déjà travaillé... comment je dirais, mon grand-père, donc mon mari, que j'adorais aussi. Ça avait déjà fait une mise en bouche, quoi, si j'ose dire. 2 ans avant, il était parti, et ils sont partis au même âge, du coup. Et à cette époque-là, j'ai pas commencé ce sujet-là. Je crois que ça m'atteignait, mais je le transformais pas encore, en fait. Mais pour elle, c'était tellement énorme que du coup, il a vraiment fallu que je transforme le truc. Et en fait, du coup, pour répondre à votre question, j'y viens. En fait, c'est pas moi qui suis morte à 39 ans et demi, jour pour jour. C'est la dernière fois que je l'ai vue, ma grand-mère. C'est ça qui est terrible. C'est que du coup, toutes ces années entre le départ de mon père, la croyance de ma propre finitude comme une fatalité, et ben en fait, la personne que je redoutais de perdre peut-être le plus au monde, elle part. À ce jour, la dernière fois que je la vois, c'est-à-dire je me rappelle, je prends le panoramique parce que vraiment, moi, ces choses-là étaient tellement difficiles à vivre que mon frère me dit qu'en fait, moi, la réponse photographique, c'est une mise à distance par l'écran, en fait.
Mm-hmm.
Alors moi, je ne sais pas si c'est une mise à distance ou... Moi, j'ai plus en tête...
De garder l'instant.
Exactement.
Oui, je
de
pense
garder
aussi,
trace.
Oui, oui.
De garder trace. Parce qu'en fait, j'ai tellement conscience que ce qui se joue sous mes yeux est en train de partir à l'instant où la lumière pénètre ma rétine.
Ça ne se rejouera plus, quoi.
Ça ne se rejouera plus, et du coup, c'est pas que j'ai pas confiance en ma mémoire, c'est que je veux pouvoir, du coup, renforcer l'accès au temps par ma mémoire, mais par aussi le fait de garder en photo, quoi. Et je me rappelle faire le panoramique sur sa chambre avec... ma grand-mère, du coup, dans l'entrebâillement de la porte de chambre d'hôpital, hein, puisqu'elle est partie à l'hôpital. Et c'était la dernière fois que je la voyais, quoi. Et en plus, c'est fou. C'est pas que c'est un acte manqué, mais on nous avait prévenu hein, qu'elle avait le cœur qui devenait fébrile. Et voilà, donc on est reçu hein, par les médecins, on nous convoque, on avait été bien reçus et tout. C'est pareil, je salue tous les gens du corps médical et qui souffrent là depuis cette période pandémique, vraiment très difficile pour tout le monde, que ce soit pour les soignants ou les gens qui perdent des gens. D'ailleurs, je me suis dit, à cette occasion, je me suis dit que moi, j'ai vraiment eu la chance parce que là où je pense à tous ces gens qui, à l'heure actuelle, perdent des proches, quand je pense l'importance que ça a eu pour moi de tenir la main de ma grand-mère lors de ses derniers instants, et de mon grand-père aussi 2 ans auparavant.
Oui, vous pensez à tous ceux qui ne peuvent pas le faire en ce moment.
Dès que ça a commencé, passé l'étape de sidération, je me suis dit, punaise, moi j'ai peur de ça depuis que je suis gamine, mais vraiment, j'ai eu un bol de fou, parce qu'en fait, j'ai eu toutes les conditions réunies pour être près de mes proches,
ouais,
leur tenir la main, faire des choses qui comptaient pour eux. C'est bête, mais je me rappelle d'une petite anecdote. Ma grand-mère, du coup, quand elle faiblissait vraiment à vue d'œil, je me rappelle arriver dans sa chambre d'hôpital. Et on sait que c'est de longue haleine hein, quand on accompagne quelqu'un comme ça, voilà, qui décline. Quand c'est pas brutal, quand ça se répète, ça a aussi sa part de difficulté, parce que venir jour après jour assister un proche à l'hôpital, ça peut être pesant aussi. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque, dès que j'entendais une ambulance au loin, ça me faisait des palpitations. Quoi.
Ben oui, évidemment.
Parce qu'en plus, à cette époque-là, du coup, ça m'a fait développer des troubles anxieux, parce que voilà, le choc, tout ça, avoir à gérer le départ d'un proche, avec tout ce qui s'ensuit derrière matériellement et tout, c'est vrai que c'est assez... assez lourd à gérer symboliquement, mais du coup, même le matériel pèse. Quoi. Quand il faut gérer ça, tout ça en symbiose, c'est pas évident. Quoi.
Mais c'est vrai que vous avez eu la chance d'être là, de pouvoir lui tenir la main, de pouvoir être proche d'elle.
Et je me
et
suis
ça,
dit
c'est,
en plus,
c'est formidable. Ça. Ouais.
Mais je vais vous dire en plus, Sabine, je me suis dit, mais quoi de plus beau qu'en vérité se retrouver face à son ombre, face à sa peur, l'embrasser et réussir à transcender ça pour vraiment être en mesure. Qu'est-ce qui peut être, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus important dans ma vie, du coup. Bon, vivre aussi pour soi, c'est important. Hein. Mais je veux dire, vis-à-vis de ceux qu'on aime, qu'est-ce qu'on peut faire de plus fort que d'être là, près d'eux, et même si on en a peur plus que tout, être capable, même dans la peur, de traverser cette peur et d'être main dans la main avec celui ou celle qui peut aussi avoir peur par ailleurs de partir. Quoi.
D'accueillir la mort, finalement.
Oui, de l'accueillir et de l'embrasser avec son proche qui s'apprête à passer cette porte-là. Quoi. Alors, après, on le dit, hein, parfois, les morts, voilà, il y a des gens, j'ai déjà entendu un ami qui, lorsqu'il a perdu sa mère, en fait, il était parti chercher un café. Sa maman est partie pendant le temps qu'il est parti chercher un café. Des fois, on se dit, les gens choisissent peut-être leur moment aussi pour le faire seul, et pas forcément près des proches.
On en parlait hier soir avec quelqu'un qui disait justement,
oui.
Vous avez entendu ça, elle avait demandé à son mari d'attendre un jour simplement pour ne pas que ça tombe à une date anniversaire. Ouais.
Oui.
Alors, comment est votre relation maintenant à la mort depuis ça? Comment ça se passe dans votre esprit, dans votre cœur?
Je crois que je m'accommode de la finitude.
L'apaisement est arrivé.
C'est-à-dire que maintenant... Et c'est assez bizarre. Il y a quelques jours, j'ai... Parce que du coup, je ritualise beaucoup. Hein. Sabine, vous en parlez des fois, vous dites que... Ça peut être intéressant, justement, pour refaire la boucle vis-à-vis des personnes. Parce que c'est aussi ça qui m'a motivée à dépasser ce cœur qui commençait à pulser dans ma gorge à l'idée de vous appeler.
Ça va mieux, c'est bon.
Oui, mais au départ, c'était horrible parce que je me disais que ma voix n'allait pas sortir, en fait.
J'appelle pas les pompiers, ça va aller.
Non, parce qu'en plus, maintenant, je médite et je fais du sport depuis. Et du coup, la méditation... L'hypnose, je fais ça par YouTube, j'écoute des vidéos qui me guident.
Mmh.
Et tout ça m'a bien permis de calmer, vraiment calmer
bah, tant mieux.
Cette âme sensible. mais du coup, oui, je pense que j'ai intégré ça parce que c'est assez bizarre en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le moment pour être libérée de tous les deuils, je le sens. J'ai l'impression d'avoir un nettoyage en ce moment. Peut-être que c'est en faisant justement le projet. Je me dis que cette idée de transcender l'expérience, d'en faire quelque chose de créatif et du coup, de, comme je l'exprime, on dit digérer, le dire pour le gérer. Je pense que tous ces rituels que j'ai faits, toutes ces photos que j'ai prises, tous ces dessins que j'ai fait aussi des dessins où je dessinais juste merci. Je pouvais être chez mes grands-parents dans les derniers moments où j'étais dans leur appartement. J'ai jamais pu considérer que c'était le mien. Mon frère et moi avons eu cet appartement. Je me voyais pas y vivre. Je crois que si j'aurais vécu, j'aurais vécu comme une copie de mes grands-parents en mémoire pour eux.
Dans le rond, oui.
Ouais, exactement. Ah oui, exactement. Ouais. Mais et oui, je me suis dit, j'ai préféré. En lieu et place de ça, je me suis dit que c'était plus simple pour moi de larguer le matériel et de d'embrasser l'immatériel. Je sais que après avoir lâché l'appart, je suis partie. Enfin, j'ai fait un voyage en Écosse seule. Là aussi, j'ai dépassé mes peurs. Je crois qu'en fait, depuis que j'ai vécu ce truc où j'ai redouté ça toute ma vie. Ben en fait, je me suis dit à une époque que je voulais embrasser mes peurs après.
Mais oui, mais vous savez, c'est le principe du travail sur la peur et même sur la phobie. Quand on se confronte et qu'on dépasse sa peur ou sa phobie, alors elle disparaît.
Oui, et puis c'est fou parce qu'en fait, j'ai envie de dire qu'avec cette histoire de mort, alors après, je ne vais pas jouer les balèzes hein, parce que franchement, c'est pas pour dire, hein, on a beau aimer les gens qu'on aime. Entre avoir de l'empathie et vivre soi-même l'expérience, je ne peux pas du tout dire si un jour je sentais ma mort venir. Je sais que j'ai fait une attaque de panique. C'était la veille de l'anniversaire de ma grand-mère. Vous savez, on dit souvent quand on perd quelqu'un, en fait, c'est pas facile, en fait, les
dates
premiers événements
oui,
qui suivent, vous voyez.
Alors, c'est,
par exemple,
quelquefois, sans s'en rendre compte, on se programme soi-même pour ça, malheureusement. On fait une sorte d'autoprogrammation et on se pourrit la vie soi-même. C'est quand même dommage. Hein.
Ah bah oui. Enfin, là, du coup, ouais, je me suis pourré la vie avec cette histoire, mais en même temps, encore une fois, on n'est jamais ce qu'on est. Des fois, on ne choisit pas ses peurs ou quoi. Bon, bah là, il se trouve que au travers de mes occupations artistiques, enfin du fait que je sois artiste, bon bah du coup, ça a nourri un de mes projets, quoi. Mais c'est vrai que au prix de combien d'années de peur, quand même. Mais voilà, quoi. Mais du coup, je pense que maintenant c'est intégré, quoi, parce que je sais que quand je pense à eux maintenant, bien sûr. Je suis en train de réfléchir, je crois pas que j'ai encore de pleurs liées à mes grands-parents. Et puis, c'est pareil, il y a des contenus qui vous aident beaucoup, quoi. Par exemple, je sais que j'avais vu une conférence de Christophe Fauré,
oui,
c'est ça
oui.
Vous l'avez cité en plus il y a quelques jours, il me semble.
Oui, régulièrement, de toute façon, j'aime beaucoup.
Hein, vous le citez. Oui. Et il y en a un sur... alors, il y en a sûrement plusieurs, mais moi, à l'époque où j'ai eu besoin de m'y pencher, une de mes voisines m'en a parlé d'une conférence donc où il parlait du phénomène de l'intégration. J'ai retrouvé ma note d'ailleurs dans le projet tout à l'heure où vraiment il dit que au terme de ces étapes de deuil, à un moment donné, l'idée c'est que on vit quelque chose d'extérieur qui nous dépasse et à force on le digère et on intègre en fait en quelque sorte ces morts. Je me rappelle d'ailleurs que mon psy m'avait dit quelque chose qui m'avait un petit peu effrayée parce que j'en étais pas à l'endroit des deuils à ce moment-là.
Oui.
Mon psy m'avait dit « on mange nos morts ».
Oh, l'image est un peu brutale. Mais je comprends le sens, effectivement. On les intègre et ils vivent à l'intérieur de nous. Mais enfin, on n'est pas cannibales non plus. Hein.
Après, moi, c'est vrai que... il y a plusieurs facteurs qu'on jouait niveau traumatique, mais c'est vrai que après la perte de mon père, j'avais dû prendre, parce que moi c'est en termes de prendre, j'avais dû prendre 20 ou 25 kilos, mais bon, ça fait pas encore le poids de quelqu'un, quoi. Mais
symboliquement, vous aviez intégré quelque chose, oui.
Ouais, voilà. Ou je portais quelque chose, ou je ne sais pas. Mais oui, le phénomène d'intégration, bah comme vous le dites souvent, hein, de toute façon, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. fait ce qu'on peut et on aimerait que ça dure le moins longtemps possible, mais c'est vrai que certaines choses...
On dit souvent, mais après ce sont des chiffres, et moi les chiffres, je ne suis pas comme vous, je suis plutôt fâchée avec les chiffres. On dit que ça dure 2 ans à peu près, un travail de deuil, une période de deuil classique, mais c'est pareil, c'est une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose.
Bon, alors moi, ça devait être du deuil traumatique alors, dans ce cas-là. Parce que si vous me dites qu'effectivement, s'il y a des... peut-être dans le cas des morts précoces, du coup, vous croyez que ça alourdit un peu la facture, du coup, quand
je crois que chaque histoire est personnelle, et c'est pour ça que je n'aime pas les chiffres dans ces cas-là. Ça dépend de tellement de choses, de tellement de facteurs différents qu'on ne peut pas dire, voilà, ça dure 2 ans, point, non, ça peut durer quelques jours, ça peut durer bien plus longtemps, ça dépend de... Il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte là-dedans.
Bien sûr, bien sûr.
C'est pas, ça ne me paraît pas très important, finalement, la durée. Ce qui me paraît important, c'est la richesse de cet apprentissage-là.
Ah oui, non, mais c'est fou, du coup. Mais j'ai plein de... c'est Frédéric qui m'a accueilli au standard avant de vous avoir. Mm-hmm. Je lui disais que, par exemple, vis-à-vis de mon père, à des moments, je lui écrivais pour me soulager. Il m'est arrivé de lui écrire dans l'agenda de l'année de sa mort, en fait, que j'ai parce que il était taxi et il avait une mallette, en fait, dans laquelle il y avait certains de ses effets personnels. Et comme on garde beaucoup dans la famille, voire peut-être un peu trop, et ben en fait, dans cette mallette, en fait, il y avait l'agenda, quoi. Et du coup, à certains moments, quand j'ai eu besoin de dire à mon père ce que j'avais pas pu lui dire de son vivant, je lui écrivais dans cet agenda-là, quoi.
Ah, c'est mignon, ça répond aussi à la question que je posais tout à l'heure en début d'émission, quel geste mais symbolique oui. Vous faites.
Et oui, j'ai appelé, vous croyez, Sabine? Vous m'avez motivée, là, même si je flippais.
L'agenda de cette année-là, finalement, c'est le seul auquel il pouvait avoir accès, c'est logique, quelque part.
Non, mais c'est un truc de fou, en plus, parce que ça faisait un petit peu comme un arc dans le temps, vous savez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui de l'année 91, quoi. Mm-hmm. C'est bizarre de savoir... C'est un petit peu comme se prendre la main, en fait. C'est parce que lui, je me dis, il a acheté cet agenda et il a écrit dessus ce qu'il comptait faire lors de cette année. Il avait sûrement pas prévu de mourir. Et parce que ça a été fulgurant. En plus, il est parti en 6 mois.
Oui.
À
quel âge?
Et en plus, c'est 39 ans et demi.
Ah oui, c'est vrai, pardon.
C'est pas grave.
Quand je vous dis que j'ai un souci avec les chiffres, oui, c'est ça.
Chiffres.
C'est terrible.
Donc
c'est
voilà,
terrible.
On est logique. Hein.
Ouais. J'imprime jamais quand il s'agit de chiffres. Moi, j'ai une très bonne mémoire pour le reste, mais alors les chiffres, il doit y avoir des raisons, je ne sais pas. Mais ça me passe complètement à côté.
Oui, après, vous êtes plus lié peut-être au domaine du sensible. Il n'y a pas forcément besoin de cadrer de manière cartésienne pour que les choses soient à leur place, je ne sais pas.
Pour moi, c'est sûr, en tout cas, oui.
Oui, d'accord. Enfin, moi, je suis un peu des deux bords, je crois.
Oui, c'est vrai, parce que vous avez un côté très artiste en même temps qui n'est pas forcément celui qui colle le mieux avec les chiffres. Mais...
Oui, mais j'ai un côté un petit peu obsessionnel aussi. Alors,
ah, donc ça
on
vous
peut
rassure.
Être obsessionnel et artiste, du coup.
Ça vous rassure, les chiffres, c'est plus cadré.
Oui, c'est ça. C'est pour essayer d'ancrer dans cette espèce de ballon d'hélium qui est la sensibilité, là. Comme ça, c'est pour faire le pont entre ciel et terre, là. Il faut s'ancrer un petit peu. Oui, voilà, du coup, je ne sais plus,
Et cette grand-mère qui a compté particulièrement pour vous, est-ce que vous avez l'impression d'avoir toujours un lien avec elle particulier?
Oui, ben, je continue de lui parler, en fait. Mm-hmm. Pour moi, maintenant, je peux lui dire ce que j'ai à lui dire tout au long de la vie, en fait. C'est pas une perte, maintenant, c'est un gain intérieur, en fait. Alors, je passe pas ma journée à lui parler, hein, bien sûr.
C'est ça l'état dont on parlait tout à l'heure, l'intégration, c'est ça.
Hein. Ouais, ouais. Et j'ai un truc en plus, j'ai un formidable support pour ça en plus. J'ai son siège sur lequel on a parlé toute la vie qu'on a partagée ensemble. On s'appelait beaucoup et on échangeait beaucoup, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui m'a. Autant mon grand-père était dans la contemplation et aujourd'hui. Ce que j'ai intégré de mon grand-père, c'est plus quand je regarde les astres ou le temps, la nature. Ça va être plus parce que c'était quelqu'un de plus... il était plus taiseux, en fait. Il parlait vraiment avec parcimonie. Et du coup, je dirais que j'ai un lien avec lui en ces termes-là de méditation, de contemplation et de lien au corps. Là, je le redécouvre à l'heure actuelle. Je sens que l'intégration de mon grand-père est venue de manière tardive, alors qu'il est décédé avant.
Avant, oui.
Parce que je me suis mis au sport dernièrement. Et du coup, de m'être remis au sport me remet en contact avec la corporalité et le physique. Et du coup, c'est fou. Dernièrement, du coup, je finissais ma séance de vélo quotidienne. Parce que du coup, comme je passe du blanc au noir, là, je ne faisais pas de sport. J'ai pas trop fait d'activité physique depuis que j'étais ado. Et d'un seul coup, je me remets au sport parce que j'avais besoin. Parce que voilà, j'ai eu une épreuve de rupture dernièrement. C'est aussi une autre forme de deuil. Hein, et voilà. Et du coup, et ben voilà, l'intégration de mon grand-père, c'est au travers de la méditation, de la contemplation et du sport et donc du corps, quoi, du lien au corps avec le monde terrestre. Et ma grand-mère, c'était plus celui de l'échange.
Alors, vous avez mentionné ce fauteuil, c'est-à-dire c'est un fauteuil dans lequel vous pouvez vous asseoir encore maintenant quand vous avez envie de lui parler, par exemple, c'est ça?
Oui.
Alors, vous savez ce que ça me rappelle, Sandra? Je ne sais pas si vous étiez à l'écoute il y a quelques temps. Quand j'ai parlé de cette personne au Japon qui a installé une cabine de téléphonique dans un cimetière.
Si.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Attends, continuez parce que je ne suis pas sûre. Parce que
après,
c'est vrai que vous avez...
après un tsunami au Japon qui a fait 13 ou 14 000 morts, il a installé une cabine téléphonique dans un cimetière dans lequel les gens peuvent entrer et parler à leur défunt, simplement pour avoir un endroit où se poser seul. Et bien, alors bien évidemment, il n'y a personne au bout du fil, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça leur faisait du bien parce qu'ils ne savaient pas où se mettre. Et ensuite, ça crée polémique. Et je me demandais ce que vous en pensiez finalement de cette idée de mettre une cabine pour rappeler ses défunts.
Pourquoi ça crée polémique, du coup? Ça m'intéresse.
Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est comme une manière de rester dans le déni, d'entretenir un déni, si vous voulez, de la mort de la personne, de continuer à lui téléphoner.
Ça dépend de quelle manière on le fait. Si on est effectivement déchiré de le faire et tout. Et quoique, il faut bien un moment pour qu'on soit déchiré quand c'est ça. On ne veut pas non plus nier... Vous parlez, vous aussi, beaucoup, souvent des émotions. On sait bien que les émotions qui nous traversent peuvent aller par tous les dégradés. Hein. Voilà, ça peut être un déchirement, un arrachement. Ça peut être un inconfort de la grande tristesse. Et puis, de toute façon, je veux dire, les émotions appartiennent à ceux qui les ont. Et qu'ont les gens à du coup venir... se demander si ce serait bon ou pas pour les personnes évacuer quelque chose, ça je comprends pas.
Ça m'a surpris aussi, mais il y a eu beaucoup de réactions assez négatives en disant que c'était n'importe quoi, que c'était farfelu, que ça n'avait pas de sens. Pour ça, je posais la question. Moi, je suis un peu comme vous. Je pense que si ça peut faire du bien, pourquoi pas hein.
Oui, voilà. Et puis ceux que ça dérange, à la limite, qui passent leur chemin et qui se demandent pas qui il y a dedans et ce que les gens en font en fait. On comprend pas bien en fait. Alors, c'est déjà assez difficile de traverser ces épreuves-là. Alors si en plus il faut être jugé par rapport à comment on essaye d'embrasser l'épreuve, je trouve que plutôt qu'être dans le jugement, être dans la compassion, il me semble que c'est autrement plus important. Mais bon, encore une fois, toutes les réactions sont ce qu'elles sont et moi, j'ai pas à juger ça, mais...
Après, je pense que c'est un sujet tellement sensible que chacun réagit à sa manière et quelquefois, les gens réagissent, surréagissent peut-être à ce genre de thème-là. C'est pour ça que ça a provoqué des polémiques. Mais moi, je suis comme vous, j'aime bien cette idée-là et je trouve que c'est très touchant de pouvoir aller s'isoler et puis voilà, prendre un moment de dialogue intérieur comme ça avec son défunt.
Ouais, parce qu'en plus, moi, j'étais un petit peu embêtée parce que mes grands-parents, depuis toute petite, ils nous emmenaient, mon frère et moi, alors on allait chacun notre tour les voir, mais ils nous emmenaient au cimetière et moi, c'est vraiment un lieu, je crois que je suis pas beaucoup allée hein, depuis qu'ils sont dans le caveau, ils ont rejoint mon père. Moi, ça m'a toujours horrifié depuis que j'étais gamine d'aller dans les... Je me rappelle que quand j'étais enfant, j'étais déjà très visuelle. Et du coup, autant maintenant, je sais quoi faire, entre guillemets, des visualisations plutôt que vision, parce que vision, ça fait un peu mystique. Mais... toutes les visualisations que j'ai, parce que moi, tout idées de dessin, les idées de création et tout, ça peut intervenir de manière auditive. Je peux entendre quelque chose. Mmh. Ça peut être pendant les rêves, ça peut être visuellement. Et déjà, quand j'étais gamine, je crois que le mental, la visualisation marchait déjà à plein tube, quoi. Donc, je me rappelle que quand mes grands-parents nous traînaient au cimetière, que c'était assez pénible en même temps, je me pose pas trop la question de savoir pourquoi j'ai eu un rapport à la mort assez difficile. Eux, ils trouvaient ça important d'aller voir mon père au cimetière à partir du moment où il y est allé. Mais c'était quand même pas facile pour des gamins comme mon frère et moi à 9 ans et à 14 ans d'être traînés tous les jours au cimetière pour aller rendre hommage aux morts. Quoi.
Bien sûr, c'est compliqué.
Mais je sais du coup que ouais, c'est assez lourd, vous voyez. En fait, je crois qu'il y avait vraiment... Je ne vais pas rentrer après dans le truc, mais je pensais aux histoires de constellations familiales et tout, ou d'héritage, quoi, de psychogénéalogie.
Oui.
Et je sais qu'à ce niveau-là aussi, je crois que je portais un petit quelque chose aussi. C'est que...
ça me paraît assez évident quand on arrive avec une telle peur qu'on trimballe comme ça sans savoir précisément d'où ça vient. On peut aller gratter un petit peu derrière. Hein.
Bah, je vais vous dire, Sabine, moi je pense, parce que du coup j'ai un peu fait
le travail.
J'ai un petit peu... C'était vraiment une des pierres angulaires qu'il y avait à retrouver chez mes grands-parents. Mais je crois que je n'ai pas percé à jour tous les secrets parce que... Bon, même si des fois, j'ai trouvé un peu plus que ce que j'aurais voulu, mais il y a vraiment un truc dont je suis sûre, en tous les cas, c'est que mes grands-parents, du coup, c'était... Eux-mêmes avaient un rapport traumatique à la mort. Du fait que, bon, déjà d'avoir perdu... leur fils de manière donc dans l'ordre inverse de ce qu'on s'attend, quoi. Pour eux, c'était pas naturel de perdre leur fils.
Oui, évidemment.
Mais ils avaient déjà perdu une petite fille, en fait. Et moi, je sais que ma grand-mère, ça me... Alors, comme j'étais sa confidente, je pense qu'elle a essayé de m'en parler une ou deux reprises. Mais moi, j'étais vraiment pas prête du tout aux époques où elle a essayé de m'en parler. En fait, ils avaient eu un petit bébé, une petite fille. Avant mon père. Alors j'ai retrouvé parce que j'ai le livret de famille.
Vous pensez que ça pourrait venir de là ?
Bah c'est étrange en fait. Cette petite fille, elle est décédée. C'est horrible. Elle est décédée dans les bras de ma grand-mère. En fait. Elle avait une mort du nourrisson.
Ouais.
Et du coup cette petite fille, bah je me dis. Ils ont perdu cette petite fille. Finalement, c'est une vie qui ne s'est pas jouée, en fait, vous voyez. Enfin, elle a joué, elle s'est jouée à hauteur de ce qu'elle devait jouer, de toute façon.
Mais ça a pu ancrer cette terreur en vous, ouais, bien sûr.
Et je sais que ma grand-mère, des fois, elle m'appelait ma fille.
Mmh.
Vous voyez.
Et oui. Oui, vous avez porté sur vos épaules quelque chose qui n'était pas à vous.
Ah bah, on est d'accord.
Autre chose, Sandra, je vois arriver depuis tout à l'heure plusieurs SMS qui soulèvent un point que je trouve intéressant aussi. Quid des numéros de téléphone enregistrés quand les gens sont partis ? Plusieurs personnes, dont Cathy, me met « Je n'arrive pas à effacer les numéros de téléphone des gens qui sont morts sur mon téléphone. » C'est vrai que ça, c'est...
Cathy, vous avez dit, c'est ça ?
Oui. Il n'y a pas qu'elle, il y a plusieurs personnes qui envoient des messages en disant « Finalement, c'est aussi quelque chose de compliqué à faire, ça, d'effacer le numéro de téléphone. Et combien de temps on met avant d'y arriver, tiens ?»
Ah bah, alors du coup, je vais un petit peu reprendre ce que vous avez dit avec lequel je suis d'accord, hein, c'est-à-dire on ne peut pas donner de chiffres, il faut vraiment... Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu un regard intérieur, en fait. Je pense qu'on est assez bien foutus, nous, les humains, c'est-à-dire qu'on a notre volonté, on a notre conscience, et que parfois, quand on arrive à établir un lien avec nous-mêmes, Si on regarde à l'intérieur de soi, je pense que quand on se pose la question, on doit pouvoir sentir quelle émotion. Puisqu'on dit que les pensées génèrent les émotions, peuvent se ressentir dans le corps, on s'en rend bien compte, hein, parce qu'on des fois, quand on se met à ruminer quelque chose de difficile intérieurement, le discours intérieur finit par vibrer, entrer en résonance avec le corps. Et voilà, après, on peut somatiser, mais... et je me dis que du coup, si on se demande, j'avais déjà entendu une fois aussi que si on se posait les questions à voix haute, parfois on pouvait sentir et y répondre.
Alors, quelquefois, quand les gens sont particulièrement auditifs, c'est vrai que ça, c'est une manière de fonctionner qui peut être intéressante. Le fait de s'entendre poser une question peut faire vibrer quelque chose de différent. Mais ça, c'est pareil, c'est très personnel. Ça dépend de chacun.
Alors après, c'est comme pour tout, quoi. Dans tous ces petits conseils-là, c'est un petit peu des boîtes à outils qui sont tout à fait personnelles. Et moi, je me dis toujours, en fait, en tous les cas, sur tous ces sujets-là, je me dis que l'affaire est tellement délicate et que de toute façon, on ne pourra jamais instaurer quelque chose qui marche pour tout le monde. Je me dis que quel est le meilleur endroit, comme un endroit, par exemple, chez vous, là, sur la libre antenne, où on entend à chaque fois les gens parler. Quel est le meilleur endroit, du coup, des endroits où on va justement échanger des expériences et on va pouvoir se donner un petit peu... c'est souvent utilisé dans certains domaines, mais c'est une forme de boîte à outils, en fait. À chaque fois, ces trucs et astuces-là, on se les donne, on essaye pour soi.
Exactement,
ce sont des suggestions.
Mmh.
Ça marche pour soi, ça marche pas pour soi, c'est pas grave. Il y a plusieurs accès pour une même destination. En soi, faut un petit peu trouver ses propres clés. Et c'est intéressant d'utiliser les différentes clés.
Ouais, c'est ce que j'appelle les chemins. C'est souvent ce que je dis. Je dis, moi, je suis là uniquement pour vous montrer des chemins. Après, vous les prenez pas. Vous testez pas.
C'est ça.
Mais je peux pas les prendre à votre place, les chemins. Ça, c'est certain. Et c'est pareil en thérapie. L'erreur que commettent souvent des gens, c'est d'aller chercher la solution chez le thérapeute. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ah oui, en plus...
Elle n'est pas chez l'autre, la solution. L'autre peut simplement vous montrer comment la trouver à l'intérieur de vous.
C'est clair, parce qu'en plus, vous me rappelez pertinemment une image que je m'étais forgée au travers de mon travail thérapeutique avec mon psy. Je me rappelle très bien avoir l'image intérieure, du coup, qui vient de réapparaître en pop-up dans mon... dans ma fenêtre.
J'aime bien l'image.
Intérieure. Mais oui, mais parce que du coup, tout de suite, j'ai pas d'effort à faire, ça pop, quoi. D'ailleurs, je me dis que je l'ai jamais dessiné, ce truc-là. Ça me foutra peut-être la pelle au moment où je l'aurai dessiné. C'est qu'en fait, moi, je m'imaginais avec lui, main dans la main, et regarder en face du miroir. Mais j'ai jamais attendu qu'il me donne quelque chose venant de lui. Je voyais plutôt qu'il était à mes côtés pour me regarder et me poser les bonnes questions et m'aider à faire ce cheminement intérieur, en fait.
Mmh.
Plus comme ça que je le voyais. Mais pour en revenir à la question de Cathy, parce que du coup, je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir... Moi, en tous les cas, ce que j'ai fait... Alors moi, c'est-à-dire, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour réussir à supprimer quelque chose, des fois, je garde trace. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai supprimé de mon téléphone, parce qu'en fait, je voulais pas avoir cette idée. Alors, la notion de pinch est une notion que j'ai vue dans un. Alors, c'est Guy Winch, c'est quelqu'un qui a fait un TED qui parlait de rupture. Mais je me dis que ça marche aussi pour le deuil. C'est-à-dire, le pinch, c'est le pincement au cœur. Je sais que j'avais effacé moi le. J'avais effacé en fait. Je vais réussir à recoller le truc. J'avais effacé le profil de ma grand-mère, le contact. Voilà, je trouvais pas le mot. Le contact de ma grand-mère, parce que franchement, si j'allais sur les contacts et que je voyais
à chaque fois,
sa tête,
ça pinçait, ouais.
Exactement.
Après, il faut simplement voir ce qui pince le plus. Est-ce que ça fait plus mal de l'enlever ou de le voir?
Pareil.
Pas évident.
Du coup, regard intérieur.
Exactement.
Imaginez.
Ouais.
Et si on imagine. Eh ben, théoriquement, on a la réponse de savoir comment ça rentre en vibration avec le corps. Est-ce que ça fait mal ou est-ce que ça fait pas mal?
Oui.
Moi, je sais que quand je swipais, là, j'étais sur mon écran et tout. Si je voyais dans l'historique d'appel ou machin, j'utilise aussi des trucs sur mon téléphone. Des fois, quand je cherche des contenus, des notes dessinées, des choses comme ça et tout, si je faisais par mot de recherche comme ça et que je tombais sur quelque chose ayant attrait à ma grand-mère, elle faisait pinch, pinch, pinch. Mmh. Du coup, je me dis à un moment donné, non, il faut effacer.
Ouais.
Quoi.
Ce qui est violent aussi, c'est les souvenirs Facebook qui vous sautent à la figure sans que vous ayez rien demandé.
Oh
ça, c'est vache.
Ça, c'est ça.
Ça vous remonte une image ou un mot et d'un seul coup, et ça vous plonge dans quelque chose de triste sans prévenir.
Et en même temps, là aussi, ça me fait penser à une image. Quelque chose avec une image que j'avais aussi visualisée en thérapie avec mon psy. C'est-à-dire, cette espèce de tsunami émotionnel, cette chose comme ça qui nous, mais qui nous frappe la tête, hein, et où on mange le sable au départ, quelque part, tous ces échos-là dans le temps et tous ces surgissements qui adviennent sans qu'on ne puisse bien sûr les maîtriser, et Dieu sait si les réseaux, là, les réseaux sociaux et tout le numérique, des fois, ça n'aide pas. Hein, oui. Pour le droit à l'oubli, avec les réseaux sociaux, des fois, il faut aller nettoyer. Hein, quand on dit qu'il faut nettoyer devant sa porte, alors nettoyer physiquement, mais maintenant, il y a le nettoyage numérique. Quoi.
Est-ce que vous alliez me dire que ce sont comme des tests pour voir où on en est ?
Ben oui, parce que du coup, ça fait écho. Mmh. Et du coup, parce que moi, les pinches, du coup, je vois ça comme quand, vous savez... les instruments à cordes. On peut jouer comme ça en grattant et on peut pincer. Ça s'appelle le pizzicato. Et moi, à chaque fois que j'ai un pinch comme ça, j'ai l'impression que ça joue du pizzicato avec la corde sensible qui est mon cœur, en fait. Et du coup, eh ben, en fait, la mesure du pinch, on demande aux gens dans la douleur. Vous savez, d'un point de vue thérapeutique, on demande aux gens comment dire, de donner une note à la douleur.
De chiffrer la douleur sur une échelle de 10.
Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Vous voyez, vous n'êtes pas si fâchés que ça avec les chiffres.
jusque-là, ça va.
Et ben en fait, voilà. Un peu, le long du temps, du coup, ces choses-là, c'est, finalement, c'est le reflet. C'est comme si on prenait la température du deuil. Est-ce qu'on est encore à chaud? On souffre énormément. Est-ce que c'est encore souffrant? Est-ce qu'il y a... Quelles sont encore les résurgences?
C'est la petite tape sur l'épaule, quoi.
Oui, c'est ça. Mm. Ah oui, c'est ça.
Moi aussi, j'ai des images, vous voyez.
Oui. Non, mais du coup, je visualise maintenant. J'aurai vos images aussi. Oui, je viens de visualiser, ça y est.
C'est vrai, ça permet de prendre la température du moment et de se dire, voilà, quel chemin j'ai parcouru, où est-ce que j'en suis par rapport à cette émotion-là.
Ouais, et finalement, c'est intéressant, quoi. Ouais. C'est intéressant parce que...
Tout ce qu'on transforme en apprentissage est toujours intéressant.
Ah oui, c'est ça.
C'est ce que je dis souvent dans la vie, on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, pas forcément, mais on peut contrôler ce qu'on en fait.
Ah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a un horoscope que j'aime bien suivre. Je crois que c'est mon horoscope d'ailleurs de la semaine en cours. C'est exactement ce que ça me disait. Je vous ai dit que j'avais un petit côté obsessionnel, et quand on a un côté obsessionnel, on essaye de contrôler. Et le contrôle, des fois, c'est quoi? C'est de la protection quand effectivement il est advenu des choses qu'on n'a pas pu contrôler par le passé et qui nous a fait peur ou
bien
mal.
Bien sûr.
Et du coup, des fois, on essaye de se rassurer pour se dire que là où tout s'effondre sous nos pieds, on arrive encore à maîtriser certaines choses. Et dans mon horoscope la semaine dernière, ça me disait ça. Ça me disait qu'il fallait que j'ai l'intelligence de séparer les choses sur lesquelles je pouvais agir, les choses qui n'étaient pas dans mon contrôle, les choses sur lesquelles je pouvais agir, essayer de faire de mon mieux, les choses sur lesquelles je ne pouvais pas agir, laisser partir, laisser aller.
Et quand on va encore plus loin, on se rend compte que dans la réalité, on ne contrôle vraiment rien. Ce n'est qu'une illusion mentale, le contrôle.
Ah oui.
Mais bon, ça, c'est un chemin encore plus avancé, on va dire.
C'est même pas l'ancrage dans le moment présent, c'est l'ancrage dans chaque seconde qui meurt avant la suivante, en fait.
Il y a un petit message qui vient d'arriver, qui n'est pas signé, qui dit « Mon père est décédé en 2013. Il était abonné à un journal quotidien. Ma mère a conservé l'abonnement papier et moi, je reçois la newsletter sur ma boîte mail au prénom de mon père. J'ai tout laissé comme ça, je l'ai intégré à mon monde. » C'est une façon aussi d'intégrer ça. C'est mignon aussi.
Oui, c'est mignon. Bah oui, on fait tous bien ce qu'on peut vis-à-vis de cette chose si personnelle et en même temps si individuelle et intemporelle.
De cette absence, tellement présente. Mmh. 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 Vous savez quoi, Sandra?
Oui.
Il est presque 1h du matin.
Vache.
C'est bon qu'il dit.
Vous avez bien dire que vous avez bien fait de dire qu'on finissait par oublier, hein, parce que là, franchement,
ça va. Il y a pas eu de malaise, c'est bon.
Non. Ça aurait été dommage en plus d'être si intéressé par un sujet. Après, je dis pas, on est beaucoup à être traversé par ça, mais
Bon, Sandra, en tout cas, merci pour cet échange. Je vais devoir vous laisser parce qu'il me reste quelques secondes pour dire au revoir.
Allez, au revoir, Sabine.
Passez une bonne nuit, Sandra.
Plaisir. Oui, merci.
Plaisir partagé. À bientôt.
Oui, merci.